Cathy, oui.
Mais je vais être plus court dans mes réponses, promis.
Cathy, vas-y.
J'ai plein de questions, notamment sur le droit du travail. Ah. Donc, est-ce que justement le droit du travail doit être considéré et il y a des soupapes?
Alors, c'est une question qui demande, j'avais dit que je serais plus court, mais là, il faut que je sois précis. Mais oui, il faut être précis. Il faut être précis sur ces histoires-là. Première chose, on n'attend pas les accords de libre-échange pour avoir un problème en matière de droit du travail. On est dans l'actualité actuellement. Vous venez de le dire. La loi actuellement en préparation prévoit une explosion du droit social, puisque, vous le savez, le droit social... J'en profite un peu parce que ça m'énerve aussi cette histoire.
10h30 à la cathédrale demain.
Oui, mais c'est une bonne idée. C'est-à-dire que toute l'histoire du droit social et le principe du droit social, finalement, est basé sur une idée simple, qui est un constat que chacun peut faire, pourvu qu'on ait les uns et les autres soit travaillé en entreprise, soit connu des gens qui travaillent en entreprise, c'est-à-dire tout le monde, on connaît plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a dans le contrat de travail une partie forte et une partie faible. C'est-à-dire la partie forte, c'est l'employeur. Pourquoi c'est la partie forte? Parce que l'employeur n'a pas besoin de ce salarié-là. Il y en a 4 millions ou plus qui attendent derrière la porte. Alors que la partie faible, le salarié a besoin de travailler pour avoir le revenu, parce que sinon, il n'a pas le revenu. Hein, il n'a pas son salaire. Et donc, partant de ce constat que tout le monde peut faire et que tout le monde a fait depuis fort longtemps maintenant, eh bien, l'histoire du droit du travail, c'est la dépersonnalisation de la relation de travail, c'est-à-dire de faire en sorte que dans le contrat de travail, il y ait des éléments qui ne soient pas possibles de négocier, ni pour l'employeur, ni pour le salarié. Des éléments d'ordre public social, qui sont le salaire, les conditions de travail, le temps de travail. On ne peut pas travailler plus de temps, on ne peut pas travailler en dessous de temps, et il y a les conditions de travail qui sont posées aussi dans l'ordre public social, c'est-à-dire on ne négocie pas. Et faire que on place la convention d'entreprise de surcroît au-dessus, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité, comme ça a été dit à l'instant, de substituer la convention d'entreprise à l'ordre public social, ben ça veut dire qu'il n'y a plus d'ordre public social, puisque... Par exemple, quand on nous dit les 35 heures vont continuer d'exister, mais oui, mais bien sûr elles vont continuer d'exister. Mais les 35 heures, c'est quoi? C'est le temps légal, c'est-à-dire c'est le temps à partir duquel se déclenchent les heures supplémentaires. Mais le temps maximal, c'est pas 35 heures, c'est 48 ou 60. Bon, enfin bref. Je reviens à tout ça pour dire que donc les accords de libre-échange ne sont pas les seuls source d'enquiquinement, et que on se débrouille très bien entre nous pour nous en créer, puisque cette loi est quand même la menace principale maintenant sur les questions, la loi et puis le machin, la loi Macron, et puis pas toute l'affaire, vous les connaissez aussi bien que moi. Alors concernant les accords de libre-échange, il y a deux situations. Il y a la situation du Canada et la situation des États-Unis. Concernant la situation des États-Unis, vous le savez, les États-Unis n'ont pas ratifié 6 des 8 conventions de l'OIT, et le discours qui est dans le mandat de négociation et qui est tenu par la Commission est de dire que grâce à cet accord, on va amener les États-Unis à ratifier les accords de l'OIT. C'est une plaisanterie qui pourrait être drôle si elle n'était pas sinistre, parce que on ne voit pas comment, par cet instrument-là, on va contraindre, je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit, à contraindre les États-Unis à faire ce qu'ils n'ont pas fait, de toute façon, par ailleurs. Comment on va, par un accord de libre-échange, contraindre les États-Unis à signer les conventions de l'Organisation internationale du travail? Mystère. Mais en tous les cas, dans le discours officiel, c'est ce qui est dit, qui est quand même une première fumisterie. Alors après, au Canada, certaines des conventions de l'OIT ont été signées. Le Canada, socialement, n'est pas équivalent aux États-Unis, vous le savez. Ils ont un, protection sociale qui, ou protection sociale de conditions de travail, de salaire qui n'est pas équivalente à la nôtre, mais enfin qui n'est pas équivalente, je veux dire qui n'est pas exactement la même, mais qui est largement semblable. Enfin, je veux dire, c'est le même niveau. Il n'y a pas de, il n'y a pas de disparité, notamment comme il existe avec les États-Unis sur le licenciement, sur les conventions collectives, sur le temps de travail, par exemple. Alors, comment est-ce que ces accords, en tous les cas le TAFTA, abaisseraient les normes sociales? Ben, d'une manière assez simple, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une reconnaissance mutuelle des normes, d'une part, il y a une entrée massive des produits des États-Unis sur l'Union européenne et réciproquement, évidemment, les normes de compétitivité des États-Unis vont s'imposer à l'Union européenne. Et c'est toujours au nom... Je ne sais pas si vous voyez le mécanique, enfin, vous voyez le lien. C'est-à-dire que si l'Union européenne produit un produit à tel niveau, à tel prix, puisqu'il y a dans le prix le coût du travail qui est de temps. Si sur le même produit qui arrive des États-Unis, il y a un coût du travail qui est deux fois moins, il y a là une marge supplémentaire qui amènera nécessairement à ce que ce soit les entreprises de l'Union européenne qui réclament un abaissement des normes sociales à l'intérieur du mécanisme de coopération réglementaire. C'est-à-dire que ce n'est même pas par le mécanisme de règlement des différents investisseurs États que les choses vont se faire, ou risquent de se faire si le TAFTA est mis en place, mais par le mécanisme de la coopération réglementaire. Et ça, c'est vraiment assez clair. Puisque toujours, ça a toujours été au nom de la compétitivité que les attaques les plus féroces ont été faites contre le droit social, les conditions de travail, les salaires, etc. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas maintenant de la même manière, les mêmes causes produisant les mêmes effets avec l'accord avec les États-Unis. D'ailleurs, l'ALENA, l'accord libre-échange nord-américain, je vous conseille un petit film, si vous ne l'avez pas vu, qui dure quoi, 20 minutes, 25 minutes, de Marie-Monique Robin là-dessus. Vous avez une déclaration de quelqu'un d'assez extraordinaire qui s'appelle William Clinton, Bill Clinton pour les intimes, qui dit au moment de l'arrivée de l'ALENA il y a 20 ans, cela va créer des emplois, de bons emplois, insiste-t-il, de bons emplois américains. Good American job. Résultat des courses, quelque chose comme la destruction d'un million d'emplois aux États-Unis, un abaissement généralisé des salaires dans certaines catégories, en plus d'une déstructuration de l'agriculture mexicaine par la suite aussi, en plus. Donc, vous voyez, c'est par ce biais-là, par le biais de l'abaissement des normes au nom de la compétitivité que les normes sociales seront touchées. Mais il y a un autre aspect, spécifiquement dans le TAFTA, et qui n'est pas réglé du tout, absolument pas, puisque de toute façon, en plus, on ne nous donne aucune information spécifique là-dessus. Il se trouve que dans beaucoup de nos pays, en tous les cas dans le nôtre, il y a une protection sociale qui est à base de cotisations obligatoires, payées en partie par les employeurs. C'est une assurance. La sécurité sociale fonctionne sur base d'assurance. L'assurance, c'est aussi un service privé. Dès lors que tout est privatisé, pourquoi ce service-là ne le serait-il pas? On n'a aucune garantie pour l'instant. Rien. Absolument rien. Donc, non seulement les conditions de travail par rapport aux normes, conditions de travail par rapport aux normes, mais la protection sociale et la retraite, donc la protection sociale. C'est tout ça qu'il faut voir, et je crois véritablement que ces accords sont des machines de guerre au service des entreprises, transnationales, hein, uniquement, au service des entreprises transnationales, et qui vise à faire que le coût du travail soit abaissé, puisque le coût du travail, vous le savez, vous l'entendez depuis longtemps, est toujours trop élevé, par définition, et nuit toujours à la compétitivité des entreprises et à l'emploi des jeunes. Toujours.
Même à 1 euro
de l'heure, c'est trop.
C'est